Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. La petite phrase d'Emmanuel Macron plane sur l'université de Lyon où un étudiant a tenté de se suicider ce week-end. Le président de la faculté en appelle à une prise de conscience nationale. Alors que les cours en présentiel sont suspendus depuis près de 10 mois.
La déprime pour les étudiants et le chômage pour les nouveaux diplômés. Chez les 18-25 ans, un jeune sur cinq cherche un emploi. Les entreprises attendent toujours les aides promises par le gouvernement.
Dans cette édition, nous irons aussi à Londres, dans un hôpital saturé par le Covid-19 en ce moment. Le variant du virus multiplie les malades et épuise le personnel soignant.
Direction aussi les États-Unis où le vice-président Mike Pence pourrait épargner Donald Trump, visé par une procédure de destitution.
Notons enfin que Renault pourrait faire revivre la R5, mais électrique au XXIe siècle. Cela ne remettra toutefois pas en cause les suppressions de postes prévues en France. Après ce journal, le billet politique, Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo font chacun un pas vers leur candidature à la présidentielle. Au risque d'un trop-plein de candidats à gauche, voilà ce que nous dira Frédéric Saïs. Un étudiant est toujours entre la vie et la mort ce matin à Lyon après une tentative de suicide ce week-end. Étudiant en Master 1 de droit, il s'est défenestré depuis sa résidence universitaire. Vague d'émotion évidemment immense à Lyon 3 depuis, où le président de l'université appelle même à un plan d'urgence pour la santé mentale des étudiants en ces temps de cours à distance. Ce drame Mathilde Imberti est une caisse de résonance au malaise ambiant, vous avez pu le constater sur place.
Les cours à distance, une vie sociale à l'arrêt, le moral plonge forcément, disent Cilia, Ilona et Imen en licence de droit à Lyon 3.
On en souffre toujours, de la solitude, de ne pas pouvoir vivre sa vie comme on le veut en fait.
Tout le temps, toute seule devant mon écran, toute seule pendant les repas, enfin toute seule tout le temps en fait.
C'est la solitude, c'est certains perdent leur travail, enfin moi personnellement j'ai perdu mon job et ça a été compliqué.
Si compliqué qu'elles ont décroché, alors l'université les convie exceptionnellement à un peu de cours en présentiel. La tentative de suicide d'un autre étudiant en droit les choque, bien sûr, sans les surprendre.
C'est peut-être bizarre, mais ça m'a pas non plus étonnée. L'année dernière, on a déjà eu un étudiant qui s'est immolé. Donc je pense que la détresse étudiante, elle est là et qu'il faut peut-être l'écouter à un moment donné.
Il y a une urgence sociale, martèle le président de l'université. Lyon 3 se lance dans un plan d'action solidaire avec prêt d'ordinateur, aide financière ciblée, mais on n'y arrivera pas seul, prévient Eric Carpano.
Le distanciel n'est pas terminé, malheureusement. Et puis, il faut penser à l'après. La question de la santé mentale va perdurer pendant encore plusieurs années. Et il faut vraiment mettre les moyens là-dessus. On est à un psychologue pour 1500 aux États-Unis. Chez nous, c'est un pour 30 000.
Il faut changer d'échelle, implore le président de Lyon 3.
Autre signe du malaise de la jeunesse en ce moment, cet appel à la grève lancé pour le 26 janvier dans les universités. Notons par ailleurs qu'en Alsace, à Mulhouse, un collectif d'étudiants intitulé « Dernier déconfiné » estime dans une lettre ouverte que le président de la République, en n'évoquant pas les universités, sacrifie toute une génération. Alors aujourd'hui, mardi, à l'Assemblée nationale, un plan pour la jeunesse sera toutefois discuté à l'hémicycle. Plan qui se concentre plutôt sur les jeunes qui entrent sur le marché du travail après des études, en CDD long, en CDI ou en apprentissage. L'ambition de ce plan, c'est un jeune, une solution. Alors que chez les moins de 25 ans en France, une personne sur cinq est au chômage en ce moment. En début de crise, à l'été dernier, l'exécutif avait promis une enveloppe de 7 milliards d'euros pour toutes les entreprises qui embaucheraient des jeunes pendant la crise. Force est de constater, de l'aveu même du ministère du Travail, que l'argent tarde à venir, Thomas Giraudeau.
Dépassé par le succès du plan jeune, l'État a embauché 200 personnes supplémentaires à l'agence de services et de paiement pour traiter l'immense pile de demandes qui s'entassent, près de 400 000 dossiers reçus. Celui de Jean-Michel Garcia dans le Lot-et-Garonne prend la poussière depuis le mois d'août, date où ce dirigeant de TPE a embauché deux jeunes apprentis.
Ça fait 1300 euros par mois qui ne rentrent pas dans la trésorerie de l'entreprise, donc que l'entreprise avance. Alors je veux bien être patient, mais depuis le mois d'août, ça commence à faire un peu long. Je ne comprends pas que le dossier traîne alors qu'on parle de digitalisation, de numérisation, et que quand on appelle leur numéro en 0809-549-549, que je connais par cœur, on n'arrive à voir personne au bout du fil.
Il est très difficile de joindre le service par téléphone, affirme aussi Amel Le Commandou. Pour son embauche en CDI en septembre, ses patrons devaient toucher 4000 euros. Ils les attendent toujours, tout comme les 8000 euros de prime pour un apprenti engagé en octobre.
On n'a pas de notification d'avancement sur les dossiers, pas de délai.
Et ensuite, on a eu des soucis par rapport surtout aux plateformes qui sont pas du tout claires et qui sont surtout multiples en fait. Et c'est un petit peu ça la complexité de la chose, c'est qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs différents pour un seul et même dossier.
Critiquée sur le sujet, la ministre du Travail s'engage, mais uniquement sur les primes à l'embauche d'apprentis. Elles seront versées d'ici le 5 février. À la CPME, on veut croire en la promesse d'Elisabeth Borne. Si elle l'annonce, nous dit le syndicat patronal, c'est qu'elle doit mettre les moyens nécessaires.
Autre promesse du gouvernement pour les entreprises, les prêts garantis par l'État. Le ministre de l'Économie reçoit aujourd'hui les représentants de la Fédération bancaire française. Bruno Le Maire va leur demander, pour les secteurs tels que l'hôtellerie, restauration, la culture ou le sport, leur demander de reporter d'un an les échéances de paiement. Car ces échéances arrivent dans peu de temps, Marie Viennot.
Pour aider les entreprises à faire face aux mesures de restriction brutales de la mi-mars, l'exécutif leur a permis de toucher rapidement de l'argent en passant par les banques, via des prêts et en offrant une garantie publique à ces prêts. Un montant maximal de 300 milliards d'euros de prêts garantis par l'État était prévu et pour le moment, 130 milliards d'euros ont été demandés. Pour les premiers prêts qui ont été contractés, c'est en mars que les premières échéances tombent. Mars, c'est vite arrivé, alors qu'à contrario, le confinement perdure pour de nombreux secteurs pour une durée indéfinie. C'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire demande en ce moment aux banques le report d'un an encore du paiement des échéances pour les entreprises des secteurs les plus impactés par les restrictions. La Fédération bancaire française n'est pas hostile, a priori, à ce décalage des remboursements et plusieurs banques ont déjà dit qu'elles l'accorderaient aux PME qui en feraient la demande, quel que soit le secteur. Une deuxième année blanche sans remboursement du capital des prêts garantis par l'État sera-t-elle suffisante pour endiguer la vague de faillite à laquelle tout le monde s'attend en 2021 ? Sans doute pas, car reporter les dettes ne les réduit pas. Plusieurs voix s'élèvent, notamment chez les administrateurs judiciaires, pour qu'on réfléchisse dès maintenant, notamment avec les bailleurs, aux moyens d'étaler toute la dette des entreprises et pas seulement les prêts garantis par l'État.
Plus de 138 000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 en France depuis la fin décembre. C'est ce qu'indique la Direction générale de la Santé, alors que depuis hier, le vaccin Moderna est venu s'ajouter sur le territoire à celui de Pfizer-BioNTech. Voilà pour les chiffres, mais il ne faut pas compter sur une immunité collective pour 2021 cette année. L'Organisation mondiale de la Santé prévient, les vaccinations sont trop lentes et disparates sur la planète et les contaminations sont trop rapides. Rapides, car il y a beaucoup de personnes asymptomatiques. Une étude publiée par la revue médicale JAMA Open Network estime que la moitié des transmissions du Covid-19 se fait sans symptômes, Laura Dulieu.
Par le terme asymptomatique, l'étude comprend deux types de personnes. Celles dites présymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent être contagieuses et transmettre le virus avant de développer des symptômes et donc savoir qu'elles sont atteintes du Covid-19. Et puis il y a les personnes qui ne développeront jamais de symptômes ou alors de très faibles et qui font quand même circuler le virus. Selon les scientifiques, et qui se sont appuyés sur les observations de 8 autres études, ces deux types de personnes jouent un rôle central dans la pandémie et pour cause, 59% des transmissions du SARS-CoV-2 viennent de ces deux types d'asymptomatiques, 35% seraient dus à un contact avec une personne présymptomatique et 24% à un contact avec une personne qui n'a et n'aura aucun symptôme de la maladie. Alors que veulent dire ces chiffres ? Eh bien que les mesures de dépistage actuelles ne sont peut-être pas suffisantes, comme prendre la température et tester en priorité les individus qui ont des symptômes. L'équipe de recherche appelle même à tester de façon stratégique les personnes qui ne sont pas malades, autrement dit tous les cas contacts sans exception, mais aussi toutes les personnes qui auraient un risque élevé de contaminer leur entourage.
En ce moment, en tout cas, dans les 300 centres de vaccination sur le territoire, il s'agit aussi de détecter les porteurs du variant britannique au Covid-19. Détection qui s'accélère, 3 personnes positives se trouvent dans la région de Cholet, une famille rentrée d'Angleterre pour les fêtes. 2 autres malades à Lille, ce sont des soignantes. À Marseille, toujours 8 patients d'une même famille sont touchés par ce variant. A priori, pour le moment, le Premier ministre reste sur l'idée d'un couvre-feu en France, possiblement avancé à 18h pour 25 départements. Les chiffres, dit Jean Castex, laissent aujourd'hui penser que cela suffit. Un couvre-feu donc plutôt qu'un troisième confinement. Prochaine conférence de presse prévue après-demain, jeudi. À propos du variant britannique, encore, envolons-nous au Royaume-Uni où les autorités parlent d'un peu plus de 80 000 morts liées au Covid-19. Les hôpitaux sont sous pression en ce moment, en particulier hospitalier à Londres. Les soignants travaillent depuis plusieurs jours dans des conditions très difficiles, comme l'a constaté notre correspondant Richard Place.
C'est un imposant bâtiment gris et vert, c'est le University College Hospital. À travers la baie vitrée qui orne la façade, on peut voir le personnel et les patients. Tout le monde porte un masque et tout le monde paraît assez calme. Pourtant, dans les étages, dans les couloirs, c'est l'animation comme jamais depuis le début de cette pandémie. Amira est infirmière en soins intensifs ici à Londres. Elle ne veut pas dire dans quel établissement elle travaille. Elle craint des représailles de la part de sa direction parce qu'aujourd'hui, elle prend la parole pour dire sa fatigue, son épuisement, le manque de moyens et la difficulté de faire correctement son travail.
C'est très effrayant, c'est traumatisant. Je ne sais pas où nous allons puiser, mes collègues et moi, la force pour nous lever le matin, pour retourner au travail ou le soir quand nous faisons des gardes de nuit. Des médecins d'autres services viennent nous aider en soins intensifs, mais ils n'ont pas été formés pour ça. C'est fou. On redoute tous beaucoup plus de morts dans les jours et les semaines qui viennent.
Amira raconte ses journées interminables où elle ne s'accorde aucune pause de peur des conséquences dramatiques. Alors chaque jour, avant de venir travailler, elle boit très peu pour ne pas aller aux toilettes de la journée. Elle fait ce métier depuis 10 ans. Elle était là pendant la première vague. Elle a aussi participé à des missions humanitaires dans des camps de réfugiés au Moyen-Orient. Mais elle n'a jamais connu une telle pression, dit-elle aujourd'hui.
C'était un reportage de Richard Place depuis Londres.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Twitter a suspendu de façon permanente 70 000 comptes affiliés à QAnon.
Oui, QAnon, cette mouvance pro-Trump soupçonnée d'utiliser le réseau social à des fins violentes pour les émeutes à Washington, notamment la semaine dernière. 70 000 comptes, effectivement, sont suspendus au même titre que celui du président sortant depuis quelques jours maintenant. Donald Trump pourrait toutefois rester à son poste pour les 8 prochains jours encore. Certes, les démocrates demandent son départ et pourraient déposer une procédure de destitution, mais visiblement le vice-président Mike Pence préfère jouer profil bas, Franck Madvan.
Mike Pence et Donald Trump ne s'étaient pas parlé depuis mercredi. Ils ont eu hier une bonne conversation, d'après la Maison-Blanche. On a connu des comptes rendus d'entretien plus enthousiastes. Le face-à-face a eu lieu loin des caméras. Le 6 janvier, Donald Trump avait accusé son vice-président de ne pas avoir eu le courage de ne pas certifier les résultats de la présidentielle. On a ensuite entendu la foule se ruant sur le Capitole crier « Pendez Pence ». Mike Pence, moine soldat du trumpisme pendant 4 ans, espérait un meilleur traitement. Il n'aura vraisemblablement pas recours au 25e amendement pour démettre Trump, comme le lui demandent les démocrates. Le tête-à-tête d'hier le montre, mais il s'est bien gardé de le dire publiquement. Il laisse planer le doute. Mike Pence veut, semble-t-il, montrer que la Maison-Blanche fonctionne encore, que l'Amérique peut compter sur lui. Il collabore depuis novembre avec l'administration Biden. Contrairement à Trump, il assistera à l'investiture du nouveau président en se disant peut-être qu'il se verrait bien à sa place dans 4 ans.
Une investiture prévue le 20 janvier qui se fera sous bonne garde. 15 000 soldats seront à Washington. Donald Trump a d'ailleurs approuvé l'état d'urgence dans la ville pour la cérémonie. Taxer ce vin que je ne saurais voir. L'alcool français est pendant ce temps toujours dans le collimateur de l'administration Trump. C'est d'ailleurs aujourd'hui qu'entrent en vigueur de nouvelles taxes contre l'alcool français. Il s'agit de représailles aux subventions versées par l'Europe à Airbus au détriment de l'américain Boeing. Et revoilà peut-être les mythiques 4L et R5 chez Renault. Le groupe auto doit dévoiler après-demain jeudi son plan stratégique qu'il a baptisé Renaultution. L'idée est de se focaliser sur du tout électrique, promesse écologique, saluée. Mais ces modèles seront-ils produits en France où 4600 postes devraient être supprimés? Là-dessus, les syndicats seront vigilants et le groupe reste flou à Kim Kasmi.
La direction de Renault reconnaît travailler sur des modèles électriques à moins de 20 000 euros afin de démocratiser ce type de véhicule. Mais sans préciser s'il s'agira des retours emblématiques de la 4L et de la R5. En tout cas, le projet séduit les syndicats qui demandent à leur nouveau PDG, Luca De Meo, des garanties sur leur production en France. Franck Daoud, délégué CFDT chez Renault.
Et si on s'en réfère au projet de plan de réduction des coûts qui a été validé par la direction en 2020, le risque, c'est que on ait un maximum de 350 000 véhicules particuliers en France. Donc si on arrive à ce résultat-là, on va vers de réelles difficultés et c'est une pérennisation de Renault qui est remise en cause, clairement. C'est-à-dire loin des 550 000 véhicules électriques que Renault compte faire d'ici 2025. Comment va-t-on les faire? C'est la question. C'est pour ça qu'on se bat pour la pérennité de Flins. Et c'est pour ça qu'on se bat pour avoir des données dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse.
Pour réduire ses pertes avec l'effondrement du marché automobile en 2020, Renault, qui connaît déjà un grand succès avec sa Zoé, espère profiter de l'embellie du marché électrique qui a connu l'année dernière des records puisqu'il représentait 11,6% des ventes.
Il était romancier et journaliste, mais aussi dessinateur et cinéaste. Vassilis Alexakis est mort hier à l'âge de 77 ans. Il a passé sa vie à aller et venir entre deux cultures, deux langues, la française et la grecque. Quelques mots de la météo maintenant, Guillaume. De la pluie pour tout le monde, ou presque, ce mardi. Seules les frontières du sud de l'Hexagone resteront au sec, sous des températures qui augmentent un petit peu. 3 degrés ce matin à Lyon, 4 à Bordeaux et Marseille, 7 degrés à Paris et 10 degrés à Brest.
Merci Clara Lecoq. Vous ne nous avez pas dit si vous étiez plutôt R5 ou 4L, hein, vous nous direz ça dans quelques instants. En attendant, on va évoquer à nouveau la crise sanitaire de la décision à l'adhésion collective en compagnie de deux sociologues, Henri Bergeron et Philippe Urfalino. Dans 30 minutes, vous retrouverez mes camarades Hervé Gardette, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte, qui évoquera ce à quoi pense un artiste, et puis un billet politique avec vous, Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et ce matin, un paradoxe chez les sociaux-démocrates.
Oui, très peu de troupes militantes, mais beaucoup, beaucoup de candidats.